En effet, de nouvelles secousses se sont fait sentir ce lundi à Herat. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Ils sont accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis de 1994.
Les Rwandais sont jugés en...
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
Non, je me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardent rien autour d'eux.
Nous vous proposons la lecture de plusieurs nouvelles écrites par Sophie Véroès, née en 1976 et artiste pluridisciplinaire. D'abord animatrice d'ateliers d'écriture et médiatrice culturelle dans le domaine du livre, elle s'oriente vers l'écriture de chansons, de scénarios, de musique, de nouvelles et même la réalisation de courts-métrages. Son objectif, raconter des histoires. Happy Valentine a pour cadre la Saint-Valentin et le Maine-et-Loire. Ces nouvelles, loin d'être indépendantes les unes des autres, racontent l'histoire d'une famille de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.
Le bal, Armand, 14 février 1966. C'est peut-être d'y voir son nez trop busqué ou ses sourcils épais accentuant son regard sombre, mais Armand n'aime pas regarder son visage dans le petit miroir suspendu au-dessus du robinet. Cet épi au sommet de son crâne attire irrémédiablement le regard de ses interlocuteurs, comme Jean Minard, nouveau délégué du personnel, avec qui il était en réunion tout à l'heure à la coopérative. 2 heures à parler accords intersyndicaux, droits des salariés et manifestations à venir, en sentant les yeux du confrère glissé sur sa tignasse. Armand se moque de toute considération esthétique superficielle, mais ce soir, c'est différent. D'habitude, il va rarement au bal. En juin, il aime pourtant se rendre au feu de la Saint-Jean. Il retrouve alors les copains. On parle de la coopérative, de l'avancement de la vigne, des vendanges à venir en buvant un verre dans les jardins qui donnent sur l'arrière de la mairie. Parfois même, il danse. Mais cette histoire de Saint-Valentin, ça ne lui dit rien. Cette année, s'il se déplace au village, c'est parce qu'il espère y voir Gisèle. Sa chemise est posée sur le dossier de la chaise en bois près de la table de la cuisine, propre et repassée de la veille. Armand aime apporter du soin à ses affaires, passer le fer chaud sur le tissu encore froissé, éliminer les plis, lisser la trame sur la longueur des manches, redresser un col à mi-donné un peu trop mou, accentuer le pli d'un pantalon. Il a appris très vite à manier le fer. La maison Mauduit est une maison sans femme. Sa mère est morte en couche à la naissance du petit dernier. Ils sont 5 garçons. Sans compter qu'ils ont dû déménager, les grands-parents maternels souhaitant reprendre leurs biens situés sur la propriété. Il a fallu se contenter de travailler sur un quart du domaine seulement et de vivre dans l'ancien chai. Ce n'est pas le père qui aurait donné un coup de main pour les tâches ménagères, débordé par la gestion de ce bout de terre. Les copains rigolent d'imaginer Armand laver les draps, étendre le linge ou repriser ses chaussettes. Ça lui est bien égal, parce que manier une aiguille ne l'empêche pas d'utiliser le marteau, et quand il faut quelqu'un pour soulever les caisses de vin, redresser une charpente ou décharger un camion, c'est à lui qu'on fait appel en premier. Et puis, Gisèle aime bien ses mains. Quand elle a nettoyé la plaie faite en réparant la haie de la parcelle près de l'Othion, elle le lui a dit, qu'elle les trouvait puissantes à bâtir, habiles à réparer. Alors ce que peuvent penser les gars du village? La grande horloge indique 19h20. Armand n'a plus qu'à croiser les doigts pour arriver à temps avec la deux chevaux, devenue une vieille dame capricieuse après 18 ans de bons et loyaux services. Un problème de démarreur, une batterie sensible au gel et une courroie fatiguée en font un véhicule peu fiable. Et puis cette vitre bloquée côté conducteur qui laisse passer le vent froid et la pluie. Armand passe sa chemise, enfile son manteau, ajuste sa casquette et déjà il est dehors. Titan, qui jappe depuis un quart d'heure, se précipite sur le siège passager quand Armand entre dans la voiture. La nuit est tombée et la route est sombre. En été, on rejoint le village en une demi-heure, mais l'hiver, c'est plus long. Mieux vaut éviter le bois de la lucarne, contourner le hameau et prendre par la maison Rochambeau. Armand allume une cigarette à hauteur du champ des Giraud et elle est à peine terminée qu'il entend le clocher de Candé-sur-Authion. Le voilà presque devant le château à mi-chemin. S'il connaît bien les tourelles qui surplombent le bâtiment principal, il ne sait rien du salon au parquet marqueté ou des vastes chambres dont on parle tant. Entrer chez les aristos, c'est leur faire le plaisir de la visite guidée prétentieuse, vantant les mérites d'une lignée d'hommes illustres. Et puis il n'a jamais apprécié les frères Rochambeau. Quand ils étaient mioches, ils jouaient ensemble sur la cour de l'école. Et puis Armand a arrêté le collège pour travailler sur la propriété, alors que le fils aîné de la maison est parti faire ses études au lycée David d'Angers. Pour les Rochambeau, la vigne n'est qu'un terrain de jeu. Même si le domaine reste l'un des plus grands du département, les fils ont tous fait le choix de métiers plus faciles et mieux payés. Ils ne se sont pas vus depuis quelques années maintenant, mais quand Armand aperçoit un jeune homme au volant d'un coupé décapotable, la dernière sortie de chez Mercury, qui remonte l'allée jusqu'à la route, il sait bien que c'est Célestin. Les cheveux gominés ont perdu leur boucle, mais la blondeur ne fait aucun doute. Ni cet air narquois qu'il arbore quand il semble reconnaître son camarade de classe. Célestin crie quelque chose, mais Armand n'entend rien. Mieux vaut filer, l'aîné des Rochambeau a toujours cherché les ennuis. Mais au moment où les deux voitures arrivent l'une près de l'autre, Armand remarque une silhouette sur le siège passager.
Célestin jubile. Gisèle a accepté son invitation quand ils se sont croisés la veille, place de la République. Ce n'est pas la plus belle fille du village. Il y a quelque chose en elle d'un peu disgracieux. Sans doute cet œil qui tire légèrement vers le haut, ou ses lèvres trop fines. Mais quand Célestin la voit, il a toujours envie de poser ses mains sur ses épaules larges et musclées et d'embrasser cette peau ferme et toujours légèrement bronzée. Elle est maintenant assise à côté de lui, dans sa belle robe rouge à fleurs bleues, sur le siège passager en cuir du nouveau coupé qu'il vient tout juste de s'acheter. Une soirée prometteuse en perspective. Et voilà Armand, avec sa casquette et son grand nez, qui passe dans sa vieille deux chevaux pitoyable. « Jolie carrosse pour aller au bal !» lance Célestin. Cet abruti ne réagit même pas, et il s'apprête à doubler la voiture quand, d'un seul coup, il cale. Célestin éclate de rire. Il klaxonne à tout va. « Faut que les frères voient ça !» C'est le Benjamin des Rochambeau qui sort le premier sur le perron, et bientôt la famille au grand complet est sur le bord de la route. Mais quand Célestin jette un œil vers Gisèle, il voit qu'elle sourit à l'imbécile à grand pif. Pas méchamment, non, il a même l'impression qu'elle est un peu gênée. Et voilà ce chien ridicule et hideux qui saute de la deux chevaux par la fenêtre sans vitre et gratte à la porte de la Mercurie. « Dégage !» s'écrie Célestin en sortant de la voiture et en donnant un coup de pied dans les côtes du berger des Pyrénées. Voilà le chien qui s'écarte en geignant et Armand qui sort de sa voiture pour le rattraper. Célestin rit de le voir revenir avec ce vieux tas de poils alors qu'il commence à pleuvoir. Ces quelques gouttes sont l'occasion de tester la capote qui paraît plutôt facile à remettre en place. Et Armand, avec sa fenêtre cassée. « Eh bien, mon pauvre vieux, pas de chance. Un quart d'heure à tenir sous la flotte, tu vas arriver trempé. » La lune a disparu, cachée par des nuages chargés de pluie, et le vent s'est levé. La pluie tombe drue. « Quelques gouttes d'eau n'ont jamais fait de mal à personne, lance Armand. » « C'est dommage, je n'ai plus de place, mais tu peux nous suivre si tu veux, au moins au début. L'autre jour, j'ai mis moins de 7 minutes pour arriver à la boulangerie, pas plus. »« 7 minutes, c'est impossible, » murmure Armand. Célestin a toujours aimé les chiffres, leur exactitude, leur rigueur. C'est ce qu'il apprécie dans le métier de comptable. 7 minutes, il sait de quoi il parle. Et Armand qui le toise, tout dégoulinant de pluie. Gisèle est sortie de la voiture. Elle a posé sa main sur la portière et les observe l'un après l'autre. Célestin remarque son joli chignon qui dégage un cou épais. Rester sous la pluie ne semble pas la déranger. Cette femme, quel tempérament tout de même, et cet imbécile d'Armand qui ne l'a même pas invité. Célestin a ouvert un grand parapluie et le place au-dessus de Gisèle. « On parie ?» dit-il d'un air dégagé. Des gars se sont approchés, des ouvriers de son père à l'heure de la débauche. Sûr qu'ils n'ont jamais dû voir une voiture américaine de près. « Tu n'as jamais été très joueur, Armand. Et quand on ne joue pas, on ne gagne jamais, » reprend Célestin. « J'ai quoi à gagner ?»« Eh bien, un tour en voiture, dans une vraie voiture, je veux dire. » Ça fait rire les frangins. Le vieux tas de poils se met à japper. Gisèle lui a envoyé un bâton. Forcément, il n'arrête plus de courir dans tous les sens. Armand roule une cigarette, protégeant au mieux le tabac. Il prend son temps avant de la porter à sa bouche et d'allumer son zippo, puis il va saluer les employés. Célestin a autre chose à faire que d'attendre que cet idiot se décide à laisser la voie libre. « Ça ne m'intéresse pas, » dit enfin Armand. « Je ne veux pas faire un tour en voiture et je pense mettre moins de temps que toi. Si j'arrive le premier au village, je veux ta voiture. » Les frères qui riaient bruyamment se sont tus. On entend les gouttes d'eau qui résonnent sur la carrosserie de la Mercurie. Gisèle s'est arrêtée de lancer son bâton. Elle regarde Armand. Célestin n'aime pas le sourire qu'elle lui adresse. Il réfléchit un instant et il articule pour être sûr que tout le monde l'entende. « Si j'arrive en premier au village, je veux le terrain des chênes creux. » Les chênes creux. 2 hectares de terre coincée entre la maison des Rochambeau et la vigne. 2 hectares qui permettraient de travailler plus aisément. 2 hectares conservés tant bien que mal depuis la dislocation du domaine Mauduit que le père d'Armand a toujours refusé de vendre. Une aubaine. Un éclair vient de tomber au nord, au-dessus des champs déjà détrempés. Célestin a du mal à cacher son impatience, mais il attend, bien rangé sous son parapluie. Armand finit par s'avancer. Célestin sourit en serrant de sa main gantée les doigts gelés d'Armand. Le pari est conclu.
Gisèle voulait juste faire une balade. Les occasions de sortir sont si rares l'hiver, surtout cette année. Une semaine qu'il pleut. Mais elle espérait surtout essayer la Mercurie. Ils n'ont pas de voiture à la maison, à part le tracteur. Elle rêvait de conduire l'américaine sur les bords de la Loire, mais Célestin a ri quand elle le lui a demandé tout à l'heure. Voilà qu'il roule à toute vitesse sur la route détrempée. On ne voit pas à plus de 6 mètres. Armand a pris un peu d'avance. Célestin n'est pas habitué à s'engager dans les virages, partant mauvais, mais sur la ligne droite qui mène au bois, la deux chevaux ne fera pas le poids. La pluie a enlevé un peu de brillantine sur les cheveux du comptable. Gisèle aperçoit quelques mèches qui reprennent leur aspect naturel. De si jolies boucles blondes aux reflets cuivrés qu'il cherche à cacher depuis qu'il est étudiant à Angers. Elle ne l'avait pas vu depuis longtemps, il ne revient que 2 ou 3 fois dans l'année. Elle retrouve pourtant en lui l'enfant enjoué et têtu qu'il était, ses sourires sur la cour d'école, ses colères aussi. Devant eux, la Dechoux a mis son clignotant pour tourner à droite. Célestin rit. Le bois de la lucarne. Armand pensait que j'allais oublier le raccourci. Célestin double la Dechoux et fait presque une queue de poisson pour prendre à droite en direction du bois. Gisèle se tait. Elle écoute la voix nasillarde du jeune homme grisé par la conduite et devenu intarissable. Le paysage ravive en lui des souvenirs. Combien de parties de cache-cache quand il était minot? Combien de dimanches passés à chasser avec son père? Gisèle connaît bien le bois. Elle s'y promène souvent le samedi en revenant du village après le marché. Elle aime se balader au milieu des grands chênes et des bouleaux, humer l'odeur de terre, récolter des mûres ou trouver des champignons près du chemin qui rejoint la croix de Joux. Derrière eux, la deux chevaux a disparu. Armand a dû continuer tout droit sur la départementale sans prendre le raccourci. Elle se souvient de lui quand il était enfant. Un élève moyen, plutôt discret, taciturne, borné et malin. Ils viennent de passer devant le gros chêne. Célestin évoque encore les pique-niques au beau jour et les parties de football quand il était gamin sous le soleil de l'été. Mais il ne sait sans doute pas que la route n'a jamais été refaite depuis leur enfance. Ni que, lorsque la pluie tombe plusieurs jours d'affilée, elle devient difficilement empruntable. Ou peut-être s'en souvient-il maintenant que les roues commencent à patiner dans cette terre collante. Armand a mis du temps pour contourner le bois. Lorsqu'il arrive un peu plus tard, tout au bout du chemin sur lequel s'est engagée la Mercury, de l'autre côté du bosquet, Gisèle a déjà presque rejoint la nationale. Elle se retourne une dernière fois et voit au loin Célestin, désespéré, qui tente encore de faire avancer le coupé enlisé dans une boue épaisse. Quand Armand lui ouvre la porte de la deux chevaux, Gisèle est totalement trempée. Elle devra refaire son chignon en arrivant à la salle. Ou bien elle passera chez Éléonore qui habite juste à côté. Armand tend la main pour prendre son sac et le poser sur la banquette arrière, près de Titan. Il reste bien sur sa paume une trace légèrement boursouflée, mais la blessure est presque cicatrisée. Le bois résonne de coups désespérés de l'accélérateur. Il va finir par réussir à noyer le moteur, dit Gisèle en soupirant. Ils arriveront juste à temps pour le début du bal. Gisèle aime bien être à l'heure et ne pas manquer une seule danse. Ils reviendront demain au bois de la lucarne avec le tracteur de son père. Avec un peu de chance, Marcel aura le temps de jeter un œil sur la Mercury d'ici la fin de la semaine pour vérifier les pneus. Il devrait faire doux samedi prochain. Un joli temps pour faire une balade au bord de la Loire.
Je suis tombé pour elle. Je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tué folle.
Quand mes amours... Preuve d'amour, Léo, février 1996. Une goutte de sueur vient de s'écraser en plein milieu de mon cahier du jour. Elle est tombée sur l'intitulé de la rédaction du mois. On ne voit plus qu'une espèce de nuage d'encre qui s'étend doucement en absorbant les mots sur son passage. Je suis en nage. C'est à cause du chauffage qui vient d'être réparé. La semaine dernière, c'était le pôle Nord, et là, c'est la vallée de la mort. Les joies de l'école publique, comme dirait mon père. Et puis, c'est peut-être aussi un peu à cause du stress. Ça me fait ça à tous les coups et ça me joue des sales tours. Je suis venue avec ma chemise de première communion, celle aux carreaux gris et bleus que je déteste. C'était pour faire bonne impression parce que, contrairement à ce qu'on dit, l'habit fait le moine, crois-moi. Et ça a de l'importance que tu te mettes beau pour ce devoir à faire. Faut pas être de reste rapport à tes camarades de la ville. Tu parles. Avec ma chemise achetée à la droguerie du village et mes joues rougies par le soleil ou le froid à longueur d'année, ça me fait penser à mon père, à la cérémonie des vœux du maire, comme l'épouvantail au milieu du champ des merlets, ridicule et inutile. Ma chemise n'est pas très belle, mais c'est pas grave. Je suis sûre que cette fois ça va marcher. J'ai mis du temps, mais j'ai trouvé l'idée hier après-midi à la dernière minute. Avec ça, pour une fois, je tiens une belle histoire. Mathieu est en train de fouiller dans la casquette du prof. Une main innocente pour tirer un petit morceau de papier. Il en choisit un, le repose pour en prendre un autre, interminable. Il s'en fout, Mathieu, il est passé le premier, alors maintenant il a tout son temps. Une deuxième, une troisième goutte viennent de s'écraser sur mon cahier. Les mots « histoire » et « raconter » se sont effacés. Si tout pouvait disparaître au même moment, les prénoms sur le papier, le tableau, l'estrade. J'aimerais même qu'une grosse goutte de sueur s'écrase sur moi et m'éparpille dans une grosse flaque. Mais je ne suis pas du tout une flaque, je suis un élève de 11 ans, de l'école Victor Hugo, de Candé en Authion, et je dois aller raconter une histoire devant mes petits camarades dans une atmosphère de respect mutuel. Pas le droit au cahier sur lequel est écrite la rédaction, avec les mots bien pesés, les belles tournures et les corrections faites par mon frère. Pas de texte sous les yeux, pas d'accessoires, tout ça en 5 minutes chrono. Ce mois-ci, le thème, c'est « Preuve d'amour ».
C'est pénible parfois d'être dans la seule école affiliée de l'Association des établissements d'enseignement coopératif et social du département, de la région, du pays sans doute aussi. Il paraît qu'en Europe du Nord, là-bas, ils s'y connaissent mieux que nous en pédagogie collaborative. Je m'en fous, j'irai pas vérifier. Moi, je veux juste aller jusqu'au bac. Peut-être continuer ensuite pour être comptable. J'aime bien les chiffres. C'est net, précis, et puis c'est utile pour la ferme. Preuve d'amour. Tout un programme. Maïmouna vient à peine de se rasseoir. Le prof est complètement emballé. L'histoire d'une petite fille élevée seule par sa mère qui décide de lui trouver un nouveau travail. Avec des mots super clairs, du suspense et une fin qui fait chialer. Il faut dire qu'elle sait y faire, Maïmouna. Le regard, le ton, la lumière dans l'œil. On a l'impression que les mots sont déjà rangés dans le bon ordre dans sa tête et qu'ils sortent naturellement par sa bouche. Sûre qu'elle va avoir la meilleure note, comme d'hab, avec félicitations même. Elle m'énerve. Moi, faut pas croire. J'adore écouter les copains. Bertrand a raconté l'histoire d'un type qui parle avec un ami imaginaire. Et Renan, une course-poursuite, avec braquage par amour, avec des flingues et des crissements de pneus. Trop bien. Moi, dans ma tête, il n'y a que des souvenirs. Pas d'idées toutes neuves que personne ne peut avoir. Côté inspiration du quotidien, je vois pas trop quoi faire avec mon père qui grogne dès qu'il ouvre la bouche, la traite des vaches les matins avant d'aller à l'école, et le grand frangin qui me file des taloches à la moindre occasion. L'amour à la maison... C'est pas joli avec des larmes dans les yeux et des belles phrases. C'est quand je suis passée en vélo, devant le vieux hangar en chantier de Paul et Alice, que j'ai trouvé quoi dire. Mathieu tire enfin un papier avec ses mains toutes fines. Il le déplie lentement et lit à voix haute, en souriant. Toujours, pas pour se moquer, juste parce qu'il sourit tout le temps, comme ça. Moi, j'arrive pas à grand-chose. Mon visage ne répond plus vraiment et en plus, j'ai l'impression que je vais vomir. Léo !
Bingo ! Renato relève la tête et demande qui a été désigné. Je lui réponds en articulant, ça donne un truc comme « Moi !» J'en fais toujours un peu trop avec Renato. Il faut juste lui parler en face, c'est pas compliqué. Il me regarde un peu soulagé et en même temps il me fait un petit signe genre « ça va aller ». Mais il voit bien à ma tête que ça va pas du tout. Il entend pas bien, mais il voit tout, Renato. Christophe, notre maître, est au premier rang à droite. Je dis souvent maître, mais il n'aime pas ça. Ici, on tutoie et on appelle par son prénom, même les enseignants, même le directeur. Christophe est là le jeudi et le vendredi. En début de semaine, c'est Nicolas. On dit Nicolas. Parce qu'il est à moitié espagnol ou complètement, je ne sais plus. Le samedi matin, c'est les deux. Alors là, on rigole souvent parce qu'ils expliquent une même chose de manière différente. C'est vraiment mieux que la vieille bique de Geneviève l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont là tous les deux et en plus, il y a Gaël en stage dans la classe depuis un mois. Trois paires d'yeux qui laissent rien passer. Mais pas de stress, prenez ça comme une expérimentation. Soyez tranquille.
Tu parles.
Christophe a le nez sur sa montre qu'il a posée devant lui, bien à plat, histoire de ne pas louper les aiguilles qui tournent. C'est qu'on n'a pas toute la matinée non plus. Il faut juste écouter les réflexions des autres, sans broncher, c'est comme ça. Après la pause déjeuner, l'après-midi, on peut dire ce qu'on a pensé de notre récit. 3 minutes par personne, pas plus. Ensuite, il faudra passer à la leçon sur les rois de France et répéter le répertoire de chansons pour la journée porte ouverte en mars prochain. C'est bientôt les vacances scolaires et on est un peu à la bourre sur le programme. Nicolas a sorti son carnet où il note quelques mots. Bertrand a le doigt en suspension au-dessus d'un petit magnétophone qui lui permet d'enregistrer nos prestations. Chic. Allez Léo, au tableau.
Au moment où je me lève, la porte de la salle de classe s'ouvre en grand d'un seul coup. C'est Antoine, le directeur. Mais appelez-moi Antoine. Manquez plus que lui. Il est revenu la semaine dernière d'un colloque dans le sud de la France auprès d'enseignants sur les méthodes pédagogiques créatives. Le mois dernier, c'était en Allemagne. Il a l'air super content de son séjour passionnant et il a plein d'idées pour la rentrée prochaine. Heureusement, je passe en 6e, alors j'aurai pas le droit au nouveau projet. L'histoire en 5 minutes racontée en copain, c'est de lui, comme les maths appliquées dans l'atelier les vendredis matins et la philo au repas du midi. Il traverse la salle, genre je me fais tout petit, mais vu qu'il est grand et qu'il dit bonjour à tout le monde, ça crée un peu le bazar dans la classe. Guillaume en profite pour filer aux toilettes. Renato pose une question sur la différence entre l'utilisation de l'imparfait ou du passé composé pour un récit antérieur. Mathieu et Maïmouna se chamaillent en rigolant, et Renan pique du nez. J'ai le temps de m'éponger le front discretos. Et puis, à un moment donné, tout le monde est là, prêt, et il faut y aller. Je respire un bon coup. Je commence par le brin de soleil qu'il a fait hier en début d'après-midi. C'est important parce que, d'abord, ça pose l'ambiance, et aussi parce que, à cause de ça, j'ai pris mon vélo sans demander au père. J'aime bien le vélo, tu vas où tu veux, tranquille. Et avec le soleil, je peux mettre ma casquette bleue que j'adore. Je suis allée du côté du bois des Huards, parce que c'est pas mal pour rouler le terre-plein près du vieux hangar abandonné. C'est peut-être aussi parce que, souvent, il y a Émilie qui se balade par là. Je le dis pas, ça, je parle juste du hangar et du soleil. Il est moche, ce hangar, super moche. Il ressemble pas à un garage, ni à une maison, mais à quelque chose entre les deux. Je vois Émilie. Elle a une jolie jupe à volant, un gros blouson rose, et avec ses cheveux dans le vent, pas bien coiffés, on dirait une manouche. Elle fait des tours à vélo sur le parking, des accélérations et des grands dérapages, comme une cascadeuse. Vraiment chouette. Je le dis pas, ça, non plus. Parce que Émilie, elle est dans l'autre classe de CM2, et je vais en entendre parler toute l'année, sinon. Alors, je dis juste que je vois Paul et Alice, les parents d'Émilie. Ils sont en train de bricoler ensemble. Ils essayent d'accrocher sur l'enseigne à 3 mètres du sol un A. La lettre, un grand A en bois pour faire le mot « baile », « bal » en espagnol. Je parle aussi du vent qui souffle à ce moment-là et qui complique les choses. Et le vent souffle, souffle, il s'engouffre. Et c'est pas facile de rester debout à un moment donné. Paul manque de tomber et il faut tout reposer un instant pour faire une pause. Comme il fait froid, Alice rentre avec Émilie et Paul reste tout seul avec son A, 2 fois plus grand que lui, sur les bras. Et là, je m'arrête parce que je ne sais pas comment continuer. Elisabeth en profite pour prendre une photo avec un gros flash. Je dois avoir l'air bien bête avec ma tête d'épouvantail. Ça me fait rougir encore plus. Guillaume, il aimait bien mon histoire sur la cour quand j'ai raconté ce matin, mais je vois bien à sa tête qu'il s'ennuie à fond. Je tousse un peu et je dis que Paul aime bien bricoler, qu'il est habile de ses doigts. J'essaie de rajouter comme personnage secondaire un pauvre pigeon qui marche péniblement sur le parking désert parce qu'il a une patte en moins. Je sens bien que je gâche tout, que mes mots ne rendent pas 1/5 de ce que j'ai vu ce jour-là. Je balbutie, je laisse un grand blanc s'installer au beau milieu de mon récit, et déjà j'entends la montre de Christophe qui sonne. J'essaie d'amorcer une sorte de conclusion, genre quand on aime, on ne compte pas. C'est aussi laborieux que le reste. Et je m'arrête d'un coup.
Renan me fait un sourire du style « on est avec toi ». D'habitude, ça m'aide vachement. Mais là, ça ne m'empêche pas de me sentir bien seule, bien bête et bien rouge aussi. J'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié de dire qu'il fait tellement froid que c'est pas facile de travailler dehors. J'ai oublié de dire que la lettre A, c'est le A de Alice, sa femme, et vraiment son amoureuse, pas comme les couples tout fanés. J'ai oublié de dire que Paul, il veut ouvrir un dancing, un lieu où tous les vieux vont venir danser les mercredis et les dimanches, mais que c'est surtout le tango qu'on dansera ici. Et que le tango, c'est Alice qui aime ça. Et que je les vois travailler tous les jours pour remettre d'aplomb ce hangar. Et qu'au village, on a dit à Armand que son fils est un peu fou de s'être marié avec une femme pareille et qu'une salle de tango, ça ne marchera pas. Et que Émilie, elle voit pas trop son père parce qu'il travaille comme un fou. Je sais déjà que c'est un échec total. Pendant les minutes qui suivent, mes petits camarades me le disent tous, plus ou moins avec des pincettes. Antoine met carrément les pieds dans le plat. « Et c'est quoi le propos ? Et c'est quoi le ton ? Et c'est quoi l'histoire ?» Et moi qui croyais avoir une bonne idée, je sens mon récit tout fadasse, comme la soupe aux choux l'hiver. J'entends Christophe parler de pépites à travailler et Nicolas de chemin à poursuivre. N'empêche que c'est loupé. Et puis la sonnerie de la grosse cloche résonne dans la cour. Je suis le premier sorti de la classe. Dans les toilettes, je me passe un coup d'eau sur la figure, je suis encore rouge. On voit à peine les larmes qui coulent sur mon visage. Enfin, c'est ce que je me dis pour me rassurer, parce qu'il va falloir rejoindre les copains à la cantine. J'ai la tête pleine, c'est un peu brouillon. C'est vrai qu'Émilie est vraiment jolie avec sa robe à volant, c'est vrai que j'ose pas lui dire. C'est vrai que de voir son père se démener comme ça pour sa femme, tous les jours, avec le froid qui mord les doigts, ça fait penser que l'amour, c'est un truc bizarre quand même, mais épatant. Je tourne le robinet et l'eau s'arrête de couler. Allez, il faut tenir encore quelques heures. Ce soir, il va pas falloir traîner. Je dois rentrer vite pour m'occuper de la traite. Le père est parti à Angers pour la journée, il reviendra tard et il faut aider la mère. Je vais faire le chemin avec Elisabeth qui habite juste à côté de chez moi. En se dépêchant, on aura peut-être le temps de rejoindre Bertrand et Renan à la boulangerie pour acheter des bons becs. Je voudrais prendre des bricoles genre guimauve. Je crois qu'Émilie, elle aime bien ça.
Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer ou le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour.
Amour en cage, S et C, février 2011. Souris. Souris, je te dis.
Ça y est, ça recommence. Tu sais bien que ça ne sert à rien, qu'à chaque fois tu espères et qu'à chaque fois tu es déçu, mon pauvre. Et puis, comment voudrais-tu que je sourisse ?
Tu vois bien ce que je veux dire. Il est évident qu'il n'est pas question de mettre en mouvement les muscles au coin de ta bouche pour laisser apparaître des dents blanches. Non, bien sûr. Je te parle de te préparer, de te montrer sous ton meilleur jour, de t'apprêter. Ce n'est pas en restant toute seule dans ton coin, recroquevillée sur toi-même, que les gens vont te remarquer et encore moins t'admirer.
Je me montre toujours sous le même jour. Notre vie est un long jour sans fin. Une répétition perpétuelle des mêmes micro-événements qui constituent une journée. Qu'est-ce qui a pu changer depuis hier ? Qu'est-ce qui aura changé demain ?
Tu fais semblant de ne pas comprendre ? Tu vois bien ce que je veux dire ?
Oui, oui, je vois bien, mais je n'ai pas envie.
Tu n'as pas envie ou tu n'y crois plus ? Il ne faut pas baisser les bras, Chardenne. Il faut tout mettre en œuvre pour que des choses changent et pour sortir de cette impasse conjoncturelle dans laquelle nous nous trouvons contre notre gré. Et souviens-toi de cet adage, À cœur vaillant, rien d'impossible.
Écoute-toi, ces expressions toutes faites que tu te plais à rabâcher.
Audaces fortunae jovat. Une parole de Jacques Cœur, bien loin d'un lieu commun tout de même.
Tu es devenu ce qu'il voit de toi, un animal savant.
Mais je suis un animal.
Je veux dire un animal en cage, colonisé, diminué, infantilisé. Et arrête de m'appeler Chardenne.
C'est joli, Chardenne.
C'est horrible, insignifiant, vulgaire. C'est américain, ou plutôt français à tendance américanophage.
Tu aurais préféré Louise ou Marie ? Qu'importe, tu n'es jamais contente, éternelle insatisfaite.
Serait-ce lié au fait que je suis dans une cage ridicule, au beau milieu d'une grande surface, bruyante, dédiée aux animaux que l'on dit de compagnie, espèces qui n'ont rien demandé à personne et qu'en plus, nous résidons depuis 2 mois désormais dans une zone de courant d'air insupportable face à cet imbécile de canari jaune qui n'arrête pas de me regarder.
Attention, quelqu'un arrive. Où ? Au bout de l'allée C, 3e rangée derrière les hamsters.
La jeune femme aux cheveux blonds avec un chignon haut à la Grace Kelly ?
Je dirais plutôt Amy Winehouse, en plus édulcorée.
Pas faux.
Je n'ai jamais tort. Tu ne cesses de me rabaisser, mais j'ai souvent raison, particulièrement pour notre attitude à adopter face au public.
C'est bien cela qui m'ennuie. Qui dit public dit représentation, dit rôle, dit mensonge.
Quel beau rôle que ceux des amants éternels.
Quelle supercherie. Nous ne nous sommes pas choisis. Hasard total, turpitude et adaptation. J'aurais préféré ton frère, mangé par un chat, Dieu et son âme. Lui au moins chantait juste.
Si tu savais, il t'appelait Maria Colosse.
Ce que tu peux être mesquin.
Allez, Chardenne, on ne s'entend pas si mal, non ? À défaut d'être un couple épanoui, on fait une bonne équipe tout de même. Comédien aux représentations multiples, n'est-ce pas enthousiasmant ? Et puis on ne va pas rester là toute notre vie. Je n'en peux plus de ce perroquet déplumé qui nous réveille à 5h du matin en chantant la Marseillaise. C'est insupportable. Il faut bien partir, voyager. L'Adventura.
Oh, l'Adventura. Mon Dieu, quelle horreur. Tu as oublié d'où tu viens. Te voilà devenu perroquet répétant toujours les mêmes mots dénués de sens.
Attention, elle arrive, elle arrive. Chardenne, s'il te plaît, penche ta tête vers moi, ils adorent ça. Ça te donne l'air d'une femme douce et aimante. Je te picorerai le bec ensuite. On a affaire à une romantique, ça se voit.
Toujours cette tendance humaine à la mièvrerie. Si j'accepte, tu me donnes ta ration de graines ?
Si tu évites d'en faire tomber partout, je viens de faire le ménage.
D'accord, Stone, mais par pitié, regarde-moi en face quand je te parle.
Le grand nœud enroulé autour des barreaux de fer attire tout de suite l'attention de Mia quand elle passe devant la cage. Elle cherchait un chat, une petite présence douce et ronronnante pour ses soirées solitaires. Les voir serrés l'un contre l'autre, en train de se picorer le bec, la décide totalement. C'est ce qu'il lui fallait, un couple d'inséparables. L'amour inconditionnel dans son salon à l'heure déprimante du plateau télé. Et à moins 50% en plus. Si vous avez aimé ces textes, nous vous invitons à en poursuivre la lecture en vous procurant le recueil de nouvelles Happy Valentine, paru en décembre 2018 aux éditions pneumatiques de Beaulieu-sur-Layon. Cette lecture a été préparée et réalisée par Annie et Guylaine. L'enregistrement et le montage ont été assurés par Yvan. Vous avez pu entendre successivement des chansons populaires qui accompagnent ces nouvelles, Le petit bal perdu, interprété par Bourvil et Elsa, Tombé pour elle par Pascal Obispo, et Nous les amoureux, interprété par Isabelle Aubray.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.